Je vous trouve beau ce matin. C'est pourquoi ? C'est parce que j'ai changé de lunettes. Avant, j'avais des lunettes déformantes. J'aimerais introduire ce message ce matin par la lecture d'un verset du psaume 130, verset 5, qui nous dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » Attendre. Voilà une notion qui n'a pas vraiment bonne presse aujourd'hui. Vous priez pour l'un de vos proches sans résultat apparent. Vous voudriez voir une situation changer depuis longtemps ou une promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie, mais il vous semble que Dieu reste silencieux et l'attente est interminable. Oui, attendre, c'est un verbe qui suscite beaucoup de l'exaspération plutôt que de la joie. Pourtant, nous sommes tous, vous et moi, à l'école de la patience et à l'école de cette patience de Dieu. Et surtout, ne croyez pas que vous allez y échapper. Car Dieu tient d'une manière ou d'une autre à nous former à la patience, à l'endurance, à la persévérance. Pour cela, il vous permettra de faire ces exercices pratiques. Car nous le savons bien, la patience ne vient pas du jour au lendemain. À moins que vous soyez nés avec la patience. Mais j'en connais très peu aujourd'hui qui sont nés avec la patience. Je me souviens d'un pasteur qui me disait toujours « Eh bien, quand tu as eu la patience, demande la repatience. Et quand tu as eu la repatience, demande la repatience. » Oui, c'est cela. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça ne s'acquiert même pas suite à une prière. C'est un vrai exercice spirituel. C'est le fruit de l'esprit qui demande à mûrir dans notre vie, à se manifester pleinement. Qui n'a pas connu ce manque de patience dans sa vie? Qui n'a pas connu ce moment de précipitation qui peuvent nous emmener loin des projets de Dieu pour notre vie? C'est pour cela et pour cette raison que notre Père Céleste prend le temps nécessaire pour nous former au caractère de Christ. C'est son objectif principal à notre égard. Vous savez que Dieu aussi attend. Cela peut vous surprendre. Il désire nous voir grandir spirituellement, parce que je ne pense pas que vous soyez au summum de la maturité spirituelle, même tout en respectant votre vie spirituelle. Nous avons toujours des choses à obtenir de la part du Seigneur. Et nous savons pour cela, il faut du temps, il faut du mûrissement, pour que nous puissions obtenir les promesses, entrer dans ses desseins. Car il ne nous accordera ce que nous lui demandons quand nous serons en mesure de pouvoir saisir ses promesses. Des temps d'attente sont alors des opportunités pour une transformation intérieure. C'est dans ces moments-là où il nous faut toute la confiance en Dieu. Et nous savons combien cette confiance est éprouvée et que nous devons nous maintenir dans une attitude d'espérance et de foi. J'ai l'impression, en vous voyant ce matin, que vous êtes dans la salle d'attente. Vous feuilletez votre Bible, votre smartphone. Vous attendez ce que le prédicateur va vous dire. Vous êtes vraiment dans la salle d'attente de Dieu. Vous espérez. Vous espérez un exaucement, vous espérez une victoire, une délivrance. L'Ecclésiaste nous dit, car toute chose arrive dans votre vie, à sa saison. Et Dieu, dans sa sagesse, ne se précipite jamais. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de moi certainement une bonne prédication. Vous serez certainement déçus. Vous attendiez peut-être que ce soit quelqu'un d'autre qui apporte la parole ce matin. Vous êtes déçus. Oui. Ah oui, oui. Et pourtant, mon introduction, en vous disant, mais je vous vois dans une salle d'attente parce que vous attendez. Et j'aurais aimé ce matin entendre ce que vous entendez. Oui, qu'est-ce que vous attendez ce matin? Si je pose la question à chacun de vous, qu'est-ce que vous attendez? Je vous sens muet d'un seul coup, là, comme si je parlais à des extraterrestres.
Le retour.
C'est ça? Peut-être. J'ai jamais mangé personne. Hein. Vous pouvez répondre, hein. On est interactif ici. Je pense pas que vous êtes tous des timides, hein, parce que quand je vais vous voir à la sortie du culte, hein, vous allez parler. Qu'est-ce que vous attendez ce matin? Peut-être d'ailleurs pas que ce matin, hier, avant-hier, peut-être il y a des années. Il y a peut-être 50 ans pour certains. Qu'est-ce que vous attendez? Vous restez dans la... Vous attendez le train? D'entendre chanter le train de l'Évangile? Vous attendez quoi ce matin? J'ai envie de dire... Et ce sera l'intitulé de mon message. Si vous n'attendez rien, ce que je n'ose croire, néanmoins, cette attente qui est la nôtre nous appelle à la vigilance. Et c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, au verset 33-37, où nous avons cette exhortation de Jésus qui nous dit « Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour ou ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je dis, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce texte que je vous propose ce matin se situe à la fin d'un chapitre intitulé « Le discours eschatologique » et comme dirait mon gendre Florent, c'est un gros mot. Parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre des mots comme cela. Mais ça veut dire tout simplement le discours sur la fin des temps, des derniers jours, ou encore l'Apocalypse. Et aussitôt, après, Marc nous raconte les événements qui mènent directement Jésus sur la croix, à savoir sa passion. Auparavant, Jésus indiquait pour les disciples des signes précurseurs. Il a déjà annoncé par trois fois sa passion à venir et sa résurrection. Autant d'événements précurseurs d'une fin des temps. Mais Marc s'intéresse davantage à son effet et formule des exhortations valables en tout temps dans la vie du chrétien et chaque jour. Par exemple, la vigilance, l'attente, la patience, l'espérance, ce qui implique fondamentalement une non-maîtrise des événements et une impatience jugulée. Pour comprendre ce passage, il importe de savoir quel est ce moment dont parle ce verset 33. ne savez quand le temps viendra. Dans le Nouveau Testament, il s'agit d'une intervention décisive de Dieu, une intervention qui change totalement une situation. C'est un moment de délivrance, c'est l'inauguration d'une ère nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de positif. C'est un événement comparable à la sortie d'Égypte pour les Juifs. C'est le moment qui ne peut être confondu avec la venue de Jésus sur la terre, ou avec sa mort et sa résurrection. La vie de Jésus sur notre terre est primordiale pour nous, chrétiens. Nous parlons de la fin des temps, mais ne devrions-nous pas dire ce matin plutôt la fin de l'attente du temps, de cette période intermédiaire que nous vivons depuis 2000 ans, depuis la venue de Jésus sur la terre. Et on trouve que ce temps, il est long, mais je me dis, heureusement qu'il n'était pas venu. Où serions-nous?
Eh oui.
Et c'est vrai que l'absence du maître physique, eh bien, représente ce temps de l'attente. Mais pour nous, l'important, c'est de savoir qu'il va venir. Qu'il va plutôt revenir. Oui. Et Marc exprime à travers la vigilance, la veille, une attente composée à la fois d'un sentiment d'imminence, d'un sentiment d'incertitude, c'est-à-dire le bon moment où il va arriver, que Dieu seul connaît. Mais il viendra ce moment, soyons-en persuadés. Oui, mais il viendra d'une manière imprévisible, j'ai plus de micro.
Si, si.
Et à l'improviste. Mais vous m'entendez ?
Non,
mais c'est plutôt pour ce qu'ils enregistrent, c'est pour ça.
Non, il n'y a plus de retour pour vous.
J'ai plus de retour.
C'est tout. Bon,
vous m'entendez quand même ?
Oui.
Ça va. Donc, ben nous sommes bien obligés d'attendre, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas accélérer le temps, ce temps de la fin. Nous ne pouvons pas forcer non plus ce temps. Oui, l'important, c'est d'être toujours dans cette vigilance. Parce que la vigilance n'est pas la passivité. Nous ne sommes pas là simplement à subir le temps, sans broncher. Quand on voit toutes les injustices qui sont autour de nous, les scandales de ce monde, non, être sûr de la venue de ce moment conduit à faire de ce retour un événement heureux. Être sûr de la venue de ce moment conduit à poser des signes précurseurs, ainsi que d'annoncer ce retour à ceux et à celles qui sont autour de nous. Être sûr de la venue de Jésus, c'est préparer nos cœurs. Je me dis que c'est vraiment une vraie parabole, celle-ci. Et c'est trouver le sens de cette parabole, cette clé de lecture qui, pour beaucoup, je me dis même peut-être parfois par les chrétiens, parce qu'ils disent « ça fait tellement temps qu'on croit au retour du Seigneur, il n'est toujours pas là ». Oui. Ce qui paraît invraisemblable pour le monde qui nous entoure, pour nous c'est une réalité. Nous le croyons avec fermeté. Et souvent à partir de cet élément, nous trouvons un chemin qui nous permet de comprendre. Avez-vous une petite idée de ce qu'est l'invraisemblable de cette parabole ? Eh bien, c'est d'être un portier. Et un portier, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tient à la porte. Il ouvre la porte. Il veille. C'est sa raison principale. Alors que son maître est en voyage. Ce n'est pas par hasard si Jésus mentionne spécialement le portier dans sa mission propre. Veiller, attendre, être prêt pour ouvrir la porte et accueillir le maître, c'est cela la vraie raison. Et la conclusion de ce texte nous dit, et s'applique aux disciples en général, tous les disciples sont placés dans cette perspective d'avenir, celle du retour du Christ. Et c'est pourquoi je dis ce matin, je vous pose la question, l'attendez-vous? Mais l'attendez-vous vraiment? Aujourd'hui, tout est fait pour que nous oublions cette finalité, mes frères et sœurs, mais aussi cette réalité. On veut nous éloigner beaucoup de cela. Et c'est pourquoi, dans ce temps de vacances, eh bien, je vous parle du retour du Seigneur. J'aurais pu bien vous parler d'autre chose, bien entendu. Mais tu ne vas pas nous gâcher les vacances ce matin, Gérard. Oui. Oui. Nous sommes donc comme des passeurs éveillés de la parole de Dieu, des guetteurs attentifs au moindre signe. Nous sommes des disciples, comme ceux d'hier et aussi comme ceux d'aujourd'hui. C'est dire que nous sommes concernés, je suis concerné, vous êtes concernés, chacun pour notre part, en ce moment. Nous, disciples, rassemblés ce matin dans ce lieu, n'ont pas seulement besoin de comprendre ce texte, mais de comprendre ce qu'il implique dans notre vie. Est-ce que ma façon de vivre tous les jours me fait penser au retour du Seigneur? Ou est-ce que, qu'est-ce que je suis heureux d'être chrétien, alléluia. Eh oui, je suis content d'être chrétien. Mais est-ce que la perspective du retour du Seigneur est impactée chez moi? Oui, on n'y parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Les pasteurs non plus. C'est tellement loin. Mais qu'en savez-vous? Qu'en sais-je? C'est peut-être demain. C'est peut-être à la sortie du culte. Ça peut être en ce moment même. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Ta vie est-elle en conformité? Ta vie est-elle en règle? Es-tu pardonné de tous tes péchés? Ah oui, ben je sais, je bouscule ce matin. Non, vous n'entendrez pas de moi une prédication à l'eau de rose. Non. Parce que je suis concerné, vous êtes concerné. Notre foi en Christ nous aide à vivre, notre quotidien, quel qu'il soit. Notre foi en Christ nous permet de surmonter dans ce quotidien de nos vies, eh bien, les événements, les circonstances que nous ne maîtrisons pas, que nous subissons, oui, et qui nous paralysent parfois. Le danger nous rappelle le texte qui consiste à s'endormir en attendant. Dormir, c'est oublier qu'un avenir existe. Dormir, c'est oublier que le maître revient. Dormir dans la Bible, c'est souvent synonyme de mort. Ce texte doit, ce matin, nous interpeller. Et je le répète, car il est question des disciples du Christ, donc de vous, de moi. Le portier ne vit pas dans la tranquillité, il ne vit pas, j'allais dire, dans l'assurance de quelque chose hypothétique. Non. Il regarde, il attend, il surveille, il veille, il va de même, il en va de même du disciple de Christ. Il se tient à la porte, il regarde, il attend, il surveille, il veille. Bref, le chrétien, lui, il se tient à la limite du monde. Il ne s'y acclimate pas, il ne s'y endort pas, il veille. Pour le dire autrement, le chrétien, il vit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Oh, n'ayez crainte ce matin, je ne vous chanterai pas la litanie de toutes les situations où nous sommes acclimatés, de toutes les situations injustes que nous cautionnons par notre somnolence, de toutes les situations dans lesquelles, si nous nous sommes endormis parce que nous avons oublié qu'un avenir pour nous existe. Face à toutes ces situations qui nous arrivent en pleine figure, eh bien cet enseignement de Jésus nous dit ce matin, veillez. Parce que la force du chrétien, c'est qu'il espère, malgré les apparences et les réalités de notre monde, qu'il persévère dans la construction du royaume de Dieu déjà établi par Christ et qu'il doit achever lors de son retour, qu'il ramène à leur juste proportion les réalités de la vie. Oui, mes frères et sœurs, je vous le dis ce matin, veillons. Veillons sur notre pratique de tous les instants, afin qu'elle soit réellement une pratique de veille et au service des autres. Attendre. Veiller. C'est refuser de s'engluer dans notre petite médiocrité de nantis, refusant au nom de nos privilèges de partager avec les autres. Oh, quand je parle de nantis, je ne parle pas de richesse, bien entendu, vous l'avez compris ce matin. La seule richesse que vous possédez, c'est celle de Christ, que nous devons partager avec les autres. Oui, je le sais. Attendre, veiller, c'est refuser. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Peut-être même durer jusqu'à l'épuisement de nos forces, si bien que nous pouvons finir par nous endormir. Il viendra, même si nous ne l'attendons pas, et même si nous ne sommes pas prêts, il viendra. Attendre, veiller, ce n'est pas rester passif à attendre, à pleurnicher sur notre sort, en s'imaginant que nous sommes les plus malheureux. Mais moi je le dis ce matin, malgré les difficultés, malgré les problèmes, je suis heureux, parce que je suis en Christ, ma vie est à Christ. Et je suis heureux pour cela. Oui, je suis dans l'attente du futur de Dieu, dans l'attente de son royaume, parce que cette attente du royaume va changer mon présent. Ça va changer notre façon et ma façon de me comporter vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Ma façon de concevoir le monde. Mais la question qui se pose à moi ce matin, c'est comment être vigilant? Mais comment veiller? Mais comment maintenir mon esprit en alerte contre tout ce qui peut me détourner de cette attente de Dieu. Alors, pour chacun de nous, ce matin, quel contenu donner à notre vigilance? Aujourd'hui, veiller pour nous, ça veut dire à la fois être critique et constructif. Être critique, cela commence bien sûr par nous-mêmes. C'est tellement facile de trouver des émissaires, de pointer du doigt les autres. Soyons critiques vis-à-vis de nos dires, de nos silences, de nos actes, de notre inaction, de ce que nous vivons, de ce que nous ne vivons pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut pas se satisfaire, on parle de l'autosatisfaction. Ah, depuis que j'ai donné mon cœur à Dieu, alors, je suis sûr d'avoir une place dans le ciel. Il y a un chant qui dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin. Oui, mes frères et sœurs. L'Évangile nous rappelle que Jésus
a sévèrement condamné une telle attitude. Le chrétien, c'est un homme, une femme, qui est debout, qui est en marche. Je ne sais pas si notre président, il avait pris ce slogan dans la Bible, mais nous, nous sommes en marche, mes frères et sœurs, vers le ciel. Alléluia. Oui. Il fait tellement chaud, vous n'arrivez plus à parler. Quoi. Être critique, cela continue ensuite par les actions que nous menons seuls ou avec les autres pour que notre société soit plus juste, plus humaine. Le chrétien, c'est quelqu'un qui ne peut tolérer qu'un homme, une femme, un enfant ne puisse pas vivre dans la dignité. L'Évangile nous rappelle que Jésus a agi pour que tout homme, toute femme, tout enfant puisse vivre libre. Oui, mes frères et sœurs, le chrétien, c'est un homme, une femme, revêtu de l'armure de foi et d'une foi qui agit. C'est pas tout dire j'ai la foi. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Si ça change rien, balance cette foi-là, va vers celle de Jésus. Être critique, cela doit s'exercer au sein de l'Église de Christ. Et donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui se doit d'être vigilant afin que son Église reste fidèle à la mission que Christ lui a confiée et à dénoncer, s'il le faut, si cela n'est pas réalisé. L'Évangile nous rappelle que la mission que le Christ nous a donnée, elle est claire. Vous savez quelle est la mission que le Christ nous a donnée? Faites de toutes les nations la chanter ce matin. Toutes les nations, des disciples, et leur enseigner à mettre en pratique ce que Jésus nous a prescrit. C'est cela la mission de l'Église. Ça doit nous rappeler sans cesse, nous interpeller. Le chrétien, c'est un homme, une femme, qui par fidélité à sa foi, doit faire entendre sa voix, même si elle n'est pas écoutée. Et on sait combien notre voix n'est pas écoutée, mais peu importe. Rappelez-vous de Jean-Baptiste dans le désert, cette voix qui crie dans le désert. Et peut-être vous avez l'impression que vous êtes dans le désert, mais continuez à crier, il y aura toujours quelqu'un pour entendre. Oui. Oui, mes frères et sœurs. Exerçons-nous cette fonction critique, et comment l'exerçons-nous? Et je crois que la question n'est pas si annexe que cela. Et surtout, pourquoi nous ne l'exerçons pas? Être constructif, car si on est critique, on peut être aussi constructif. Car à quoi sert la critique si elle ne débouche pas sur une construction nouvelle qui permet de faire progresser en l'absence du Christ son royaume? Être constructif, c'est aussi se relever les manches, c'est se salir les mains, c'est collaborer avec les autres à la construction de ce royaume de Dieu. Finalement, je crois bien que c'est à chacun de nous, à moi, à vous, individuellement, mais aussi à l'Église, d'être attentif aux lieux qui réclament notre vigilance et notre propre facteur d'endormissement. Et je terminerai et je conclurai par ce que cette veille ajoute dans notre vie, c'est l'endurance. L'endurance afin de pouvoir accueillir à tout moment celui ou ce qui vient, non pas seulement un événement ponctuel, plus ou moins extraordinaire, mais ce qui advient dans le quotidien, voire même dans le banal de nos jours. Aujourd'hui, comment ignorer cette sorte d'improviste? Comment ignorer cet incognito? Comment ignorer cet imprévisible qui va survenir et qui caractérise la venue du Christ dans ce monde? Alors, mes frères et sœurs, pour terminer, je vous dis à vous tous ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant que nous avons chanté ce matin. Nous avons chanté ces réalités de qui tu es pour chacun de nous. Seigneur, tu es plus que ce que nous croyons. Tu es plus que ce que nous espérons. Puisses-tu être au centre de notre propre vie, de notre propre cœur. Puisses-tu être au centre de nos pensées. Et nous savons combien nos pensées peuvent divaguer. Combien nos pensées peuvent être détournées de la pensée principale qui doit nous préoccuper. Car nous risquons de vivre comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous risquons de vivre dans la banalité. Nous risquons de vivre dans l'insouciance. Mais nous devons vivre comme si tu revenais aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions être prêts, que ce soit maintenant ou à toujours, que ton nom soit béni. Amen. Amen.